Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre 14e de cette 5e saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Didier Aldebert.
Bonjour.
Maire de Vinassant, également président directeur général de Alenis, la société d'économie mixte du Grand Narbonne, un gros morceau sur lequel on va revenir également tout à l'heure dans une troisième partie. Le sommaire, Michel, prévoit que tu nous entretiennes sur l'habitat indigne.
Oui.
On verra un petit peu ce que cela recouvre.
Peu, oui.
Après coup, bien, on restera sur Narbonne et la Narbonnaise, en tout cas le local, avec Nouveau Narbonne qui est clairement lui aussi en campagne après la déclaration de J'aime Narbonne. Mm-hmm. En campagne pour les municipales, cela va de soi, mais je le précise. Ensuite, deuxième partie, alors les Gilets jaunes qui essaient de se réunir, enfin qui se réunissent, mais bon, avec certaines difficultés à Cabestany, à côté de Perpignan.
Oui.
Et nous terminerons, on est entré dedans en plein, le grand débat national dont on sait que la genèse est due probablement à certaines actions des Gilets jaunes. L'habitat indigne, Michel, pour commencer.
Oui. Eh bien, écoute, Jean-Claude, j'ai reçu il y a pas très longtemps, ça remonte à combien, 48 heures à peu près, j'ai reçu dans ma boîte de réception électronique des photos. Et des photos particulièrement insupportables. Ce sont celles d'un appartement, par exemple, de 13 mètres carrés avec une mezzanine, mais seulement accessible à genoux. Je parle de la mezzanine. Son loyer.
Qu'entends-tu par accessible à genoux?
Mais quand tu es dans l'appartement de 13 mètres carrés, pour aller dans la mezzanine, il faut que tu y ailles à genoux. Parce que c'est bas, en fait, c'est. Enfin, bref.
Ouais.
Son loyer, 280 euros. L'installation électrique est là des années 30, les fenêtres ne servent à rien, l'humidité ronge les murs et les rats y sont à résidence. Et des informations recueillies, faites auprès d'une personne qui gère une association venant en aide aux personnes démunies, je reçois aussi d'autres photos, notamment celle d'un homme vivant dans un 50 mètres carrés, payant un loyer de 217 euros, eau, électricité comprise, sauf que, pas cher, sauf que, on est le 17 janvier.
Oui, enfin, on est mi-janvier, là.
Mi-janvier, et la chaudière n'est toujours pas allumée, il fait 11 degrés dans l'appartement.
Donc il n'y a pas de chauffage.
Autre photo, autre situation, une dame qui a un appartement sous un toit, et quand il pleut, quand il fait un gros orage, ce toit, comme c'est une passoire, elle reçoit toute l'eau sur la tête, donc elle est obligée de quitter son appartement pour aller chez sa fille.
Et alors ça se passe sur Narbonne.
Ça se passe sur Narbonne. Et alors des exemples comme ça, on pourrait en trouver d'autres, bien entendu, pour qui s'intéresse à la vie narbonnaise et surtout s'y promène, si je puis dire, en tout cas, arpente ces rues comme je fais quotidiennement. Et donc c'est une réalité. Alors évidemment, il faut pas en déduire de ce que je viens de dire à l'instant, qui est une introduction à mon propos, que tout le parc locatif de Narbonne serait à l'image de ces appartements.
Oui,
ce serait ridicule.
On a bien compris qu'il s'agit d'exceptions quand même.
C'est ridicule, c'est stupide. Mais enfin, j'ai voulu braquer, et je le fais encore aujourd'hui, ici, sur mon blog en tout cas, je voulais braquer le projecteur sur une réalité sociale et un peu et administrative, j'y viendrai, qui est souvent masquée et que tous les pouvoirs publics et comme la presse en général ont beaucoup de répugnance à montrer comme ça, de manière parlante, significative. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord, pour que nos auditeurs comprennent, qu'est-ce que c'est qu'un appartement, un habitat indigne ou indécent, puisque les deux termes ne recouvrent pas des réalités forcément identiques.
Sur le plan juridique.
Sur le plan juridique. L'habitat indigne, est clairement établi, c'est pour aller vite, c'est un appartement ou une maison qui va quasiment tomber en ruine, L'exemple de Marseille, par exemple, ou qui a fait parler, effectivement, de cet type d'habitat de manière massive, si je puis dire,
Ça, c'est indigne.
Indigne. Et ça obéit à une procédure particulière, j'en dirai deux mots tout à l'heure. Et puis, ce qu'on appelle le mal-logement, c'est-à-dire les logements vétustes, du style de ceux que je viens de présenter rapidement à travers des photos et qui, eux, pareil, ne sont pas répertoriés, d'une part, on n'en connaît pas le nombre, et obéissent à une procédure, là aussi, très particulière. Pour avoir une idée, quand même, de ce que pour représenter l'ensemble habitat indigne et habitat indécent, Un seul chiffre seulement pour que nos auditeurs comprennent que ce n'est pas en fait une réalité, comment dirais-je, marginale. Dans l'Aude, l'habitat seulement indigne, c'est 14,3% du parc des logements du département. 14% pour les indignes seulement.
Oui, mais qui donne cette étiquette, en quelque sorte ?
Que
c'est indigne.
C'est le constat fait par les maires. Et après, s'il y a une procédure derrière par le tribunal administratif qui décide s'il faut désigner un expert, il va lui des travaux. Donc c'est répertorié. Et c'est le chiffre que je donne, c'est celui de l'État. C'est pas moi qui l'ai inventé.
Fourni par l'État.
Par l'État. Hein. Et ce type d'habitat, en fait, indigne seulement de 14,3%, on peut y rajouter pratiquement 15% de plus correspondant à ce qu'on appelle, nous, les appartements, en fait, les immeubles indécents. Ce qui fait à peu près un peu plus de 20% du parc locatif. Ce qui est beaucoup.
Non, si c'est 15 ce plus 15, beaucoup, ça fait
30%. 30%. Ce qui est considérable.
Ah oui,
et l'essentiel, en fait, l'essentiel de ces appartements se trouve dans une zone très particulière, dans une zone précise, en fait, du département, le Narbonnais, au sens large du terme. Alors. Il y a des procédures publiques pour lutter contre ce type d'habitat. L'habitat indigne, c'est le maire qui fait le constat, en fait, le préfet qui valide, et puis il y a la procédure qui est longue, qui consiste à s'il y a une mise en demeure de faire des travaux, que les travaux ne sont pas faits, il faut saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif désigne un expert, l'expert va évaluer les travaux à faire, et puis deux choses l'une. De toute façon, la mairie est obligée de les faire. Elle fait des travaux, si le propriétaire ne veut pas les faire, à charge de se faire rembourser par le propriétaire en question, ce qui, dans les trois quarts des cas, ne se fait pas d'ailleurs.
Est-ce que c'est bien réaliste ?
Ce qui veut dire que la procédure en fait, pour l'habitat indigne, elle est longue, et elle est surtout onéreuse, et en plus, elle fait intervenir plusieurs niveaux hiérarchiques, plusieurs niveaux institutionnels qui alourdissent lourdement en fait, la procédure. De sorte qu'en général, pour traiter ce genre d'affaires, il faut plusieurs mois, sinon plusieurs années, en fait, alors qu'on est souvent dans l'urgence. Pour les habitats indécents, autre procédure, c'est la commission de sanitaire en fait et d'hygiène qui est mise en place par le maire, puisque le maire a le pouvoir de police sur ce genre effectivement de réalité, la salubrité en fait des appartements. Il sait bien, monsieur, il est maire, notre invité quoi. Et là pareil, le constat fait par le service assermenté en fait du maire. Validation de l'arrêté qui déclare que l'appartement est indécent par l'agence régionale de santé, fait qu'elle a aussi une nouvelle procédure. Ça prend un temps fou.
Donc
conclusion, on arrive pour traiter ce genre même qui souvent doivent l'être dans l'urgence, ça prend un temps trop long et qui résulte ce temps trop long pas de dysfonctionnement, mais dans la chaîne hiérarchique des intervenants, à la fois de doublons de compétences et de compétences qui exercées par des partenaires qui ne sont pas forcément dans le même rythme d'intervention et avec des compétences différentes. Pourquoi ? La compétence habitat aujourd'hui, c'est l'aglo. La question que je pose, elle est toute simple. Pourquoi l'agglo qui a la compétence habitat n'a pas le pouvoir de police, par exemple, pour vérifier le contrôle, la qualité sanitaire et d'hygiène des appartements en question pour intervenir.
De la même manière. Narbonne, c'est la ville depuis quelque temps.
La commune. Alors, est arrivée maintenant la possibilité, grâce au permis de louer, qui permet au maire. Et pourquoi au maire, c'est la question que je pose, on le comprend bien, d'autoriser la location qu'à la condition qu'effectivement l'appartement soit décent. Je dis pourquoi le maire, parce que la logique serait, encore une fois, que l'aglo, effectivement,
oui,
la compétence,
mais
gère effectivement à la fois la compétence, les pouvoirs de police, et surtout que l'État pourra améliorer et rendre le processus plus efficace, transfère une partie de ses pouvoirs et de ses compétences pour éviter effectivement tout ce processus que j'ai rapidement décrit. L'ARS d'un côté, et puis le tribunal administratif et les experts de l'autre. Tout ça pour dire que on est là encore dans un système technico, financier et administratif, qui est d'une extrême lourdeur, qui est extrêmement compliqué, qui est opaque, et qui pourrait l'être moins si effectivement on harmonisait à la fois les procédures d'intervention avec les compétences exercées par une collectivité et que l'on transférait du côté du pouvoir un certain nombre de ces compétences pour accélérer effectivement les processus de décision.
Oui, voilà. On est obligé de marquer une première pause et on reviendra tout de suite après sur la suite de notre menu.